Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Vous avez pu le suivre au quotidien sur RFI. L'épicentre de la vie politique française s'est situé cette semaine à l'Assemblée nationale. Les députés élus, voilà près de 15 jours, ont commencé à travailler, ou plutôt à se répartir le travail. Présidence de l'institution avec une femme qui devient pour la première fois quatrième personnage de l'État. Questure, c'est-à-dire l'administration du Palais Bourbon. Commission qui assure le travail de fond avant les votes. Tout cela permet d'affiner le poids politique de chacun des partis et tout le mois de juillet qui commence va concentrer beaucoup de travail avec les premières lois que veut faire adopter le nouveau gouvernement. C'est d'ailleurs à l'Assemblée que la Première ministre prononcera son discours de politique générale et l'on verra les premiers points de friction avec les oppositions de droite et de gauche, sans parler des syndicats qui sont prêts à se faire entendre. Bref, l'été politique sera-t-il chaud ? C'est la question du débat du jour sur RFI, préparé par Sigrid Azéroal.
RFI.
Et je salue donc nos prévisionnistes politiques, Émilie Zapalski.
Bonsoir.
Première fois que vous venez à RFI, communicante politique, fondatrice de l'agence Émilie. Bonsoir Dorian Dreuil.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous enseignez à l'Université Paris-Nanterre et vous êtes le co-président de l'ONG À Voter. Bienvenue Emmanuel Rivière.
Bonsoir.
Directeur international pour les études politiques de l'Institut Cantard Public. Les auditeurs de RFI vous connaissent bien puisque vous fréquentez régulièrement Dimanche politique. Et commençons ce panorama de la situation politique justement avec vous Emmanuel Rivière et l'étude que vous venez tout juste de publier. Elle concerne tout d'abord l'exécutif, c'est-à-dire la présidence et le gouvernement. Et il en ressort que la confiance dans l'exécutif se dégrade fortement.
Notamment s'agissant de la confiance que les Français accordent à Emmanuel Macron, hein, qui perd 5 points, est à 32%. Donc c'est le baromètre Kantar Public Epoca pour le Figaro Magazine, qu'on peut retrouver en ligne sur le site du Figaro. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au fait au cours de ces 3 derniers mois. Normalement, dans ce baromètre qui existe depuis 40 ans, on enregistre le résultat des élections à la hausse ou à la baisse. Le camp qui a gagné l'élection, y compris les élections intermédiaires, progresse. Et puis, quand l'exécutif perd les élections, il recule. Là, ce recul, il est bien la concrétisation dans l'opinion d'un président qui a été confronté à une défaite. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'est pas monté à la suite de sa réélection. Comme si, en fait, on avait un peu zappé la comme si la présidentielle avait été un non-événement et comme si ça s'était focalisé sur la législative. Il y a deux autres points qui sont frappants dans ce baromètre. C'est que les autres membres de l'exécutif ne bougent pas, en particulier les ministres les mieux placés, Bruno Le Maire, Olivier Véran et Gabriel Attal. Eux ne semblent pas concernés, alors que d'habitude, tout le monde baisse en cas de défaite électorale. Et un dernier point qui est aussi très révélateur de la période, on a un niveau d'intérêt pour la politique dans ce baromètre qui est monté à son maximum depuis 2017. On avait moins d'intérêt pour la politique au moment de la présidentielle qu'on en a au lendemain de cette législative surprenante.
En même temps, 54% d'abstention, on ne peut pas dire que ça a passionné les Français.
Mais au lendemain de ces législatives, en fait, je pense qu'il y a des gens qui se sont dit « Tiens, finalement, législative, il peut se passer quelque chose. »
Émilie Zapalski.
Moi, j'ai l'impression qu'on a un président un peu dilettante en ce moment, parce que depuis qu'il a été élu, finalement, on entend parler de lui beaucoup de l'international ou sur le tarmac. Donc, une impression qu'on parle des affaires domestiques, mais de très très loin, alors que la maison brûle. On a quand même une Assemblée nationale qui est difficile à gérer, qui demande une organisation pour avoir une majorité absolue, c'est compliqué. Et on a un président qui est très très loin de nous, en quelque sorte, avec un gouvernement qui a mis du temps à se mettre en place et qui met du temps à être remanié. Pourtant, il y a des ministres qui ont été battus aux législatives, on sait qu'ils doivent être remplacés. Elle d'ailleurs, parce que c'est des femmes surtout, c'était la promesse du président, ça se fait pas, il y a quand même péril en la demeure sur le pouvoir d'achat, les décisions sont suspendues parce que justement cette assemblée n'est pas prête à gouverner, il y a le Covid qui revient, donc il y a une espèce de piétinement avec des gens qui sont là mais on sait que demain ils ne seront pas là, et un président qui est plus souvent sur les dossiers européens, bon maintenant la présidence de l'Union européenne se termine, mais qui est plus souvent sur l'international que sur la France, il me semble, ces derniers temps.
Et Dorian Dreuil, vous diriez que l'État est à l'arrêt, que plus rien ne se décide, c'est l'attente. Il y a des ministères qui ne sont même pas encore pourvus en conseillers, qui constituent pourtant les rouages de la machine.
Alors il est certain qu'il y a une certaine latence, mais qui est due au contexte inédit de renouvellement et de situation politique qu'on a à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, le président de la République, il y a deux semaines maintenant, avait donné deux options. Ou celle de la coalition gouvernementale avec un accord, et donc un nouveau gouvernement et un pacte de d'union ou des accords au coup par coup, au cas par cas, et selon les propositions de loi ou les projets de loi. On ne sait pas encore très bien dans quelle situation on se trouve. On va le savoir sûrement avec le discours de politique générale de la Première ministre et le remaniement qui va intervenir. Mais je ne dirais pas que, pour nuancer un peu ce que disait Émilie, que la maison brûle, moi je la trouve, j'ai jamais trouvé la situation aussi passionnante que maintenant. Et les chiffres que vous venez de citer sont, le montrent bien. Il y a un regain d'intérêt de la population pour la politique parce que c'est le retour de la vie politique française à l'Assemblée nationale. Donc mécaniquement, et de fait, ça efface un peu le président de la République, puisque maintenant, la vie politique, l'épicentre de la vie politique va se trouver précisément à l'endroit où il ne peut pas mettre les pieds, à l'Assemblée nationale. Ce qui va être passionnant dans les mois à venir, vous demandiez tout à l'heure si l'été politique sera beau, il va être beau, il va être chaud, sûrement dans les 5 années qui viennent, parce que voilà, on va se retrouver dans des configurations où il va y avoir de la discussion, du compromis, de la coalition, sûrement des revirements aussi, du suspense, tout ce qu'on n'avait plus depuis peut-être 20 ans à l'Assemblée nationale, qui redevient un lieu de pouvoir politique et qui va réintéresser de nouveau les citoyens.
Et dans les médias, c'est le remaniement, vous le disiez, qui se fait attendre. Il faut donc remplacer 4 ministres qui ont été battus à la députation et trancher le problème d'Amien Abad, Emmanuel Rivière.
Oui, et c'est un problème effectivement qui est très difficile à maintenir en état. C'est-à-dire qu'on voit bien la pression qu'il y a autour du gouvernement, d'Elisabeth Borne, qui a voulu dans un premier temps surseoir à une décision. Et bon, au fur et à mesure que des... Alors, je ne sais pas s'il y aura de nouvelles, mais c'est un sujet délicat. Donc, bon, moi, j'ai évidemment aucune compétence ni vocation à...
Il faut rappeler que le ministre a fait l'objet d'une nouvelle enquête ou accusation de viol cette semaine.
Ouais. Mais ça peut être effectivement une des conséquences d'un remaniement.
Pourquoi est-ce que ce remaniement se fait attendre ?
Ah bah c'est toujours le problème d'Emmanuel Macron et de cette République en marche qui maintenant s'appelle Renaissance. Enfin, un problème de ressources humaines quelque part. Et en plus, là, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent sortir du gouvernement, comme vous l'avez dit, qui ont été battues aux législatives. Il veut absolument tenir la parité. Il va falloir à la fois veiller à ça et puis veiller peut-être à faire des appels du pied ou des cadeaux avec probablement plutôt les Républicains pour les intégrer et les faire voter après des projets de loi plus facilement. Donc on voit bien que c'est compliqué. C'est une équation qui est très, très difficile. Et en plus, Emmanuel Macron a beaucoup de mal à faire ça habituellement. Pour revenir sur le cas d'Amien Abad, moi je crois que ça avait été réglé, en tout cas par la voix d'Elisabeth Borne, qui a priori n'arrive pas à faire respecter ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, s'il y a du nouveau sur le plan judiciaire, c'est sûr qu'on réglera son cas. Il y a eu du nouveau parce que non seulement il y a eu une plainte, mais il y a une enquête qui est ouverte. Et voilà, il est toujours là. Moi je pense que sur ce sujet, après, c'est quelque chose d'un peu excessif parce qu'en effet, il y a la présomption d'innocence, mais on a besoin de symboles pour marquer cette cause, tout comme il y a des vérifications sur le plan fiscal, nommer quelqu'un qui est accusé de viol, moi il me semble qu'à un moment ou un autre, et c'est pas seulement le gouvernement et les hommes politiques et les femmes politiques que je questionne, c'est la société. Est-ce qu'on veut laisser passer ça, ou est-ce que sur cette cause féminine qui a du mal à avancer, on pourrait avoir des symboles de ce type?
Le problème, c'est qu'il y a eu du nouveau aussi... De l'autre côté, d'un point de vue électoral, oui. C'est que Damien Abad a été réélu dans sa circonscription sans coup férir.
Oui, mais il y a une enquête, c'est quand même nouveau, c'est un point
nouveau.
En
tout cas, le sort de Damien Abad se joue ce week-end, puisque c'est certainement ce week-end que... Enfin, c'est sûr, d'ailleurs.
C'est une occasion, en tout cas, de le sortir...
Les téléphones vont chauffer tout le week-end, puisque le gouvernement devrait être annoncé très certainement en début de semaine prochaine, si on veut pouvoir faire un discours de politique générale mercredi. Alors, en face, eh bien, il y a les oppositions qui font une entrée en force au Parlement, tout du moins à l'Assemblée nationale. Revenons à votre étude d'opinion, Kantar, Emmanuel Rivière. La cote d'avenir de Marine Le Pen, elle progresse dans quel sens maintenant qu'il y a 89 députés RN à l'Assemblée ?
Elle progresse jusqu'à atteindre un niveau très élevé, 39%. Je souhaite lui voir jouer un rôle plus important. C'est un des niveaux les plus élevés qu'on ait dans ce baromètre. Elle arrive au deuxième rang. Et par contraste, avec la cote d'avenir de Jean-Luc Mélenchon qui baisse et qui maintenant est à 23%. Donc un vrai décalage. C'est assez frappant d'ailleurs de voir, dans le même baromètre, progresser le nombre de sympathisants du Rassemblement National. Parce que ça pose la question par rapport à ce à quoi pourrait ressembler cet été et la suite. Quelles seront les postures d'opposition? Et Alors, on voit bien deux postures qui sont totalement diamétralement opposées. Une recherche d'honorabilité, presque cette espèce de discrétion curieuse qu'on avait vue pendant la campagne des législatives, mais finalement relativement payante de la part du Rassemblement national. Et une posture qui consiste à batailler de manière beaucoup plus visible, dont on ne sait pas très bien si elle sera payante.
Oui, mais il y a quelque chose que vous oubliez, c'est que comment on peut appeler ça ? Pas collaboration, mais en tout cas recherche de vote, elle se fait plutôt ensemble vis-à-vis du Rassemblement national et une opposition complète de récupérer des voix de la NUP. Donc, attitude pour attitude, on voit qu'il y a quand même deux façons de traiter les extrêmes qui sont assez différentes.
Opposition à récupérer des voix de LFI.
Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, Ensemble va essayer. Il y a eu quand même deux vice-présidents Rassemblement national qui ont été élus grâce au vote de députés LAREM. Donc ça veut dire que la collaboration se fait quand même plus facilement à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, qu'avec l'extrême gauche. C'est simplement ça.
Vous parliez de la NUP. Vous avez dit que Jean-Luc Mélenchon ne capitalisait pas, 23%. À l'inverse, Fabien Roussel, le communiste, et Olivier Faure, le socialiste, pour eux, ça va mieux.
Je crois d'ailleurs que c'est la première fois dans l'histoire de ce baromètre qui tourne depuis 1978 que la première personnalité à gauche est un communiste. Et de fait, c'est un des enjeux de ce quinquennat parlementaire qui s'ouvre, alors c'est peut-être pas pour 5 ans du reste, c'est de voir comment les différentes composantes de la NUP vont s'autonomiser, jouer des stratégies différentes. Et on a vu que c'était déjà le cas, que la posture de Fabien Roussel, notamment à l'égard du gouvernement, semblait davantage constructive, mais un peu dans le sillage de sa campagne présidentielle que ne l'avait été celle des députés LFI.
Dorian Droy, votre opinion là-dessus, sachant que finalement c'est LFI, la France insoumise, qui a remporté hier la présidence de la commission des finances, qui revient toujours à l'opposition. D'ailleurs, la question c'est de savoir quelle opposition, puisqu'il y a l'Union de la gauche qui est majoritaire, mais c'est une alliance, alors que si l'on raisonne en tant que parti, c'est le RN qui est la principale force. Au final, c'est Éric Coquerel qui l'emporte. Éric Coquerel, qui a quand même un profil particulier, ancien trotskiste de la LCR et très proche, fidèle de Jean-Luc Mélenchon.
Et au terme d'un sacré suspense, parce qu'on a eu des interruptions de séance, on a vu les petites réunions, les tractations, des candidatures qui se retirent, ce qui n'est pas inintéressant, je pense, non plus pour le grand public qui découvre par là même, avec l'attention médiatique qu'on y porte, la mécanique parlementaire. Ce qui est intéressant quand on regarde les oppositions, c'est qu'il y a quand même deux niveaux d'opposition différents, deux rôles différents qui sont endossés. D'un côté, comme disait la coalition de la NUP, dont on attend de voir comment elle va évoluer, qui est dans une forme de combat, de guérilla parlementaire, de volonté d'opposition radicale. Et de l'autre, le Rassemblement national, qui cherche à faire comme s'ils avaient été toujours là, finalement, comme s'ils étaient les LR du dernier quinquennat et qu'ils étaient comme n'importe quel parti de gouvernement, prêts à travailler, prêts à... C'est pour ça que l'attitude de la majorité est vraiment curieuse vis-à-vis du Rassemblement national. On l'a vu au lendemain des élections législatives avec certains ministres ou députés qui clamaient qu'il fallait chercher les voix des députés Rassemblement national. Ça symbolise vraiment la capacité de la Macronie parfois à se mettre dans des dilemmes qui ne se posent pas à eux, puisque de fait, le Rassemblement national va... voter de nombreuses lois et va souvent aller dans le sens du gouvernement, non pas par collusion politique, mais dans cette volonté de montrer aux électeurs qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à gouverner, ils ne font pas de blocage institutionnel et avec la volonté de montrer derrière que les prochains, ce sont eux.
Est-ce que vous partagez cette analyse, Émilie
Zavascki ? Oui, moi je pense que même, j'irai plus loin, je pense que Marine Le Pen, qui avait fait une belle campagne, et en plus en optant en choisissant le pouvoir d'achat, qui a été vraiment un thème d'avenir, parce que ça nous est retombé dessus, ne serait-ce qu'avec la crise ukrainienne, ou déjà, mais elle peut remercier aussi Éric Zemmour, qui lui a permis de dédiaboliser complètement, de finir complètement cette dédiabolisation, et elle peut remercier Emmanuel Macron, qui l'a aidé aussi en appelant justement ce que disait Dorian, c'est-à-dire qu'au soir du premier tour des législatives, il n'y a pas eu de consigne claire pour éviter de voter Rassemblement national. Et quelque part, on se retrouve avec 89 députés du RN, c'est historique. Et on se retrouve avec deux vice-présidents, encore une fois, élus du Rassemblement national. La dédiabolisation, c'est même fini, c'est normalisation. On ne parle même plus de parti pas républicain ou de parti raciste. Hein. Dans les mots d'Emmanuel Macron, c'est la NUPS égale le Rassemblement national. On n'a plus du tout cette image. images. Moi, je crois que c'est assez grave ce qui se passe, parce que autant les députés du Rassemblement national, ils sont élus, pourquoi pas, mais après, ça relève de la responsabilité et de l'éthique de chacun dans l'Assemblée, de travailler avec eux et d'aller chercher leur voix ou pas. Et il me semble que là, on passe encore un cap. Marine Le Pen présidente, c'est quelque chose de pas impossible avec toutes les rampes de lancement que lui ont permis à la fois Éric Zemmour et à la fois Emmanuel Macron, ou en tout cas son groupe.
Emmanuel Rivière.
Oui, alors là, pour moi, la question, elle est tout autant de savoir quand Marine Le Pen pourrait gagner le pouvoir et quand le Rassemblement national pourrait gagner le pouvoir, que avec qui, parce que c'est comme ça que ça va se jouer. On voit bien qu'il y a une forme d'honorabilisation du Rassemblement national dans son univers qui est désormais celui de la politique et de son institutionnalisation, y compris dans leur présence parlementaire, où ce n'est plus possible d'ostraciser 89 députés. Au-delà, je rebondis sur le signe que les auditeurs ne voient pas que fait Émilie, de l'argent que les ça finances. Va rapporter au Rassemblement national et des moyens que ça va leur donner. Et le fait de se côtoyer comme ça dans les rassemblements. Après, alors bien sûr que on peut s'en alarmer si on considère que c'est un danger que la possibilité de se rapprocher du pouvoir. La question c'est aussi de savoir quel Rassemblement national. Toute comparaison ne vaut pas raison, mais l'allié du Rassemblement national à l'échelle européenne en Italie, c'est la Lega qui participe à la coalition nationale, qui est en train d'ailleurs de se faire tailler des croupières par un parti encore plus à droite qui est Fratelli d'Italia. Mais quand on parle de cette alliance chez les Italiens, de ce que fait Mario Draghi, qui est plutôt une réussite, on ne s'alarme pas du fait que dans sa majorité, il est l'ami de Marine Le Pen. Et Matteo Salvini, par rapport à Marine Le Pen, ce n'est pas spécialement un tendre non plus. Il n'y a pas simplement cette filiation qui effectivement reste quelque chose de marqueur du Rassemblement national avec le Front National et Jean-Marie Le Pen. Mais au-delà de ça, les différences ne sont pas colossales.
Dorian Dreuil, vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Est-ce qu'on peut penser que le RN puisse avoir un intérêt commun avec la gauche, avec la NUP, pour mettre en difficulté l'exécutif? Est-ce que l'objectif leur permettrait, l'objectif de gêner Emmanuel Macron et sa première ministre, pourrait les amener à faire cause commune dans certains cas?
Je ne pense pas qu'ils aient pour intérêt de trop déstabiliser le gouvernement. D'apparaître comme des premiers opposants intellectuels, politiques, philosophiques, sûrement, mais de les mettre en difficulté tout du long du quinquennat, non, parce qu'en fait, Marine Le Pen se retrouve dans une situation où elle va devoir faire du damage control pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'elle a toutes les clés en main pour accéder à la présidence de la République en 2027. À un moment où il y aura un besoin nécessaire d'alternance politique. Donc son objectif est plus de ne pas apparaître comme une alliée, mais comme un recours et comme une alternance crédible, possible, ce que va lui permettre le fait d'avoir 89 députés à l'Assemblée nationale. Parce que vous parliez des moyens financiers, mais il y a aussi les moyens humains qui sont importants. C'est des collaborateurs pour chaque parlementaire, c'est des collaborateurs de groupe, c'est un temps de parole, de la visibilité, de la place dans les commissions, le temps de faire émerger de nouvelles figures parlementaires qui vont acquérir de l'expertise sectorielle et thématique, qui vont aller dans les médias. Donc je pense qu'à l'inverse de la NUPES, qui elle sera dans une guérilla parlementaire affichée, assumée, comme elle sait faire, Marine Le Pen, elle, a plutôt intérêt avec son groupe de se positionner comme l'alternance à venir, plutôt que comme le déstabilisateur de la majorité présidentielle.
Vous écoutez le débat du jour sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Philippe Le Caplin.
Et cette question, à quel été politique faut-il s'attendre? Maintenant que tout est en ordre, ou presque, puisque l'on attend toujours le nouveau gouvernement Borne 2, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Mercredi, discours de politique générale, dont on ne sait d'ailleurs toujours pas s'il sera soumis à un vote de confiance. Pourquoi est-ce qu'on ne sait toujours pas ça, Emmanuel Rivière? C'est quoi le risque?
Bien, alors, peut-être qu'on ne le sait pas parce que ce n'est pas complètement décidé, mais c'est vrai que l'équation n'est pas simple. D'un côté, vous avez une première ministre qui va prononcer un discours de politique générale. La tradition veut qu'elle réclame la confiance de l'Assemblée nationale, mais elle risque de ne pas l'obtenir. Ce qui n'est pas franchement une excellente manière d'entamer sa fonction à Matignon, même si elle a démarré quelque temps.
Le fait qu'elle ne l'obtienne pas, vous ne voudrez pas dire qu'elle soit renversée, hein, qu'on
absolument
soit clair pour
pas
les auditeurs.
Et c'est probablement une situation qu'on préfère éviter. Et de l'autre côté, il y a le sentiment que esquiver la présentation, enfin la sollicitation des voix de l'Assemblée nationale et du soutien de l'Assemblée nationale par rapport à un discours de politique générale, ce n'est pas une solution géniale non plus, parce que ça donne le sentiment de manquer d'audace, de manquer de confiance, ou simplement de reconnaître sa propre faiblesse. Les enquêtes qui ont été publiées, d'ailleurs, disent que les Français voudraient massivement qu'il y ait effectivement ce vote de confiance. Je ne suis pas sûr que les Français aient tant que ça en tête, qu'il y ait un discours de politique générale normalement suivi d'un vote de confiance. Mais ce qui prouve bien qu'ils seraient sensibles au fait d'entendre dire les uns et les autres « Ah, ils n'ont même pas voulu solliciter la confiance ».
Émilie Zabalski, je rappelle que vous êtes communicante politique, fondatrice de l'agence Émilie.
Émilie Conseil,
pour un discours de politique générale, il faut avoir de l'entrain, il faut avoir du charisme. Est-ce qu'il y a le texte et puis il y a aussi la forme? Est-ce que vous pensez que Elisabeth Borne est en train de travailler cet aspect-là? Parce qu'on se souvient de ses récents discours, notamment au soir des législatives, où on pouvait mal donner pas vraiment l'impression, d'un bout en train, mais de quelqu'un qui emmène la majorité derrière elle.
C'est compliqué pour cette personnalité qui, en effet, c'est pas quelqu'un d'expansif, de charisme. Après, on se souvient par exemple de Jean Castex qui est arrivé avec son accent et qui finalement s'est créé une personnalité un peu d'un ancien temps, plutôt des années 50, mais qui finalement était plutôt un bonhomme sympathique qui venait nous parler, qui passait de chez le coiffeur, chez le boucher au moment du Covid, donc quelque chose de sympathique. Il faut lui laisser le temps peut-être aussi de s'installer là-dedans. Elle est arrivée à un moment compliqué. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il veut aussi des compétences pas trop élevées, des gens qui brilleraient pas trop autour de lui. On se souvient d'Edouard Philippe, hein, qui quelque part, il a péché parce qu'il a trop brillé, il était trop impeccable, il était trop populaire, et donc il n'a pas fait long feu à une période. Il l'est toujours, mais... Donc on sent qu'il y a cette volonté d'Emmanuel Macron de ne pas avoir des gens trop brillants, c'est quelqu'un de plus technique, on l'a beaucoup reproché. Maintenant, je pense qu'il faut lui laisser sa chance, c'est quelqu'un qui est aussi méthodique, qui a essayé à coup d'interview de laisser passer un petit peu plus d'humanité, de douceur, donc elle est en train d'instaurer son style. Après, c'est vrai que ce n'est pas elle qui a fait la campagne législative, d'ailleurs il n'y a pas eu tellement de campagne législative, parce qu'Emmanuel Macron, encore une fois, était plutôt international, et c'est pas elle qui l'a menée non plus. C'est pas elle probablement qui va embarquer les foules avec ce discours qui sera peut-être même pas soumis au vote. Elle va avoir son style, ça va être un style un peu plus plat, plus technique, plus efficace, et c'est ce que Macron avait donné un petit peu sur le papier comme poste.
Par rapport au duo président de la République, Premier ministre, il y a des circonstances qui sont tout à fait inédites. Hein. On sait que le président ne pourra pas se représenter. Donc le Premier ministre est potentiellement un rival. Mais par ailleurs, cette législature, elle va vivre de plus en plus sous la menace d'une possible dissolution par le président de la République, qui entraînerait assez mécaniquement le remplacement du Premier ministre, a fortiori si l'élection était perdue, mais même si l'élection était gagnée par la majorité. Donc on est dans un enjeu totalement nouveau par rapport aux positions des uns et des autres.
Et il y a du travail maintenant pour le gouvernement et les députés, bien évidemment, avec des mesures en faveur du pouvoir d'achat qui doit faire l'objet d'un projet de loi. Et puis un projet de loi pour prolonger les dispositions de l'état d'urgence sanitaire qui prend fin à la fin du mois, le 31 juillet. Et puis il y a les dossiers qui fâchent, à commencer par celui des retraites. Autant dire qu'il y a du grain à moudre d'un côté du gouvernement et de l'autre du côté des oppositions, Dorian Droy.
Oui, il y a du grain à moudre et si nous avions peut-être un conseil à soumettre à ce gouvernement, serait peut-être de ne pas commencer par les sujets qui fâchent et qui clivent et de s'arrimer sur quelques dossiers sur lesquels il est possible de trouver du consensus et du compromis. Je souffle une idée au hasard, la démocratie. Vous donniez le chiffre tout à l'heure de l'abstention au second tour d'élections législatives, 54% d'abstention, des records d'abstention de scrutin en scrutin. S'il y a un sujet sur lequel, je pense, l'ensemble des groupes peuvent commencer à travailler à l'Assemblée nationale, c'est la démocratie. Un exemple concret, l'élection à la proportionnelle. Tout le monde l'a promis, personne ne l'a mise en place. Finalement, les Français l'ont forcé, puisqu'ils ont, élu une Assemblée nationale plus justement représentative de la diversité d'opinions politiques qui traversent le pays que classiquement avec le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Donc ça peut faire partie des enjeux sur lesquels il y a aussi une attente de nos concitoyens. et sur lequel il peut y avoir un début de discussion entre les groupes politiques qui soient un peu moins passionnés que sur les sujets plus clivants qui n'ont pas été tranchés lors de l'élection présidentielle ou lors des élections législatives. Il faut bien se rendre compte de ça. Typiquement, la retraite à 65 ans, l'allongement des cotisations...
64, on ne sait pas.
64,
c'est typiquement un sujet que l'élection n'a pas tranché politiquement. On le voit avec la fragmentation aujourd'hui de l'opinion, on le voit avec les taux d'abstention record, on le voit avec la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il n'y a pas de majorité claire dans le pays sur ce sujet. Donc, où il y a l'enjeu de commencer par d'autres sujets de travail, où il y a l'objectif de trouver du consensus par d'autres moyens qui peuvent être des outils de démocratie plus délibérative, plus participative, qui permettent le débat.
Ouais,
j'ai l'impression quand même que la préoccupation majeure des Français à l'heure actuelle, et on le voit avec les grèves qui commencent à naître, c'est plutôt le pouvoir d'achat. Et je pense que c'était une promesse. C'est quand même, on en a entendu beaucoup parler grâce à Marine Le Pen aussi. Et puis avec la crise ukrainienne, on voit que l'inflation grimpe, on voit que les gens le voient terriblement dans leur portefeuille. Il y a cette question-là. Et puis je pense qu'il y a la question justement avec les grèves là dans le transport qui commence à se poser, de meilleure redistribution et d'augmentation des salaires. Et ça, je pense qu'à un moment ou à un autre, quelle que soit la majorité et comment il peut faire du cas par cas, il va falloir traiter ce problème-là. On a longtemps parlé d'une conférence sociale ou de quelque chose un peu comme à la Hollande, hein, qu'il avait pour l'instant, Bercy dit, les entreprises essayaient de payer plus vos salariés. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va être posé sur la table, ça va être obligatoire de poser
cette question.
À n'en pas
douter, en tout cas, les syndicats surveillent tout cela de très près, ils sont en embuscade, on peut le dire, Emmanuel Rivière. Est-ce qu'il faut s'attendre à un troisième tour politique, syndical, à la rentrée et dans la rue ?
Alors, je crois que les sondeurs sont la profession la plus incompétente pour prévoir les mouvements sociaux. Ça n'a jamais marché. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens plus compétents. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu désamorcé, quand même. Le risque d'éruption sociale, type gilet jaune en tout cas, c'est précisément que ça s'est un peu passé à l'Assemblée nationale. D'une certaine manière, la volonté de contrer une forme d'exercice monolithique du pouvoir très descendant et parfois violent dans sa forme et dans son fond, a été comme un peu à trouver un exutoire.
Avec cette femme de ménage dans les rangs du RN, cette autre femme de ménage dans
la proportionnelle, en fait, avec la proportionnelle imposée.
Le fait que, voilà, la proportionnelle imposée, comme vous le disiez l'un et l'autre. En revanche, évidemment, la question de la mobilisation plus classique, mais qui a toujours des ressorts puissants des syndicats, mais dépendra notamment de à quel horizon on revient et dans quelles conditions sur cette question de la réforme de la réforme des retraites.
Je crois qu'il y a un élément aussi, c'est qu'on a une espèce on a eu une accoutumance au quoi qu'il en coûte pendant la crise Covid. Hein, l'État providence finalement a soutenu tout type de demandes, que ce soit les commerçants, les artisans, les salariés, les indépendants. On a une espèce d'État guichet personnalisé. Et on s'y est habitué. Et quelque part, on ne comprend pas que ça ne puisse pas se poursuivre. Donc, qui veut une augmentation de salaire va taper à la porte de l'État pour demander. Et je pense que ça va être compliqué à gérer parce que en plus, se rajoute à ça l'inflation. Donc, on se dit forcément, l'État va essayer de faire quelque chose pour ça.
Une dernière chose, je le disais tout à l'heure, une femme a été élue à la présidence de l'Assemblée nationale cette semaine. C'est une première. Et pour son premier déplacement, Yaël Braun-Pivet s'est rendue tout à l'heure à la Maison des Femmes à Saint-Denis, lieu d'accueil pour les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales. Une femme présidente de l'Assemblée, une femme qui dirige le gouvernement, ça y est, le plafond de verre a explosé, Dorian Dreuil ?
Oui, on doit s'en réjouir. On doit s'en réjouir et le saluer. Et en même temps, moi, je m'étonne toujours qu'on en soit... toujours surpris, ou ça dit beaucoup du travail qui nous reste à faire. Je pense pour la place des femmes en politique, le premier déplacement de Yaël Braun-Pivet, il est symbolique, il est important. Il fait penser, moi, aux premiers mots qui ont été ceux d'Elisabeth Borne. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'espoir que ça donne pour de jeunes femmes, de jeunes filles ou des femmes dans ce pays qui veulent exercer des responsabilités politiques, qui veulent s'engager.
Émilie Zapalski, parce que le temps nous manque. Je voudrais rapidement, en termes d'affichage, Macron sera quand même celui qui a fait avancer donc, la cause des
Tout
femmes
à fait.
Sur son
quinquennat. Le trio des trois ministres, Première ministre et puis Amélie de Montchalin qui va partir, Agnès Pannier-Runacher, là aussi. Oui, c'est bien. Après, il faut que... C'est très bien de le remarquer. Après, ça devrait devenir une normalité. Hein, ça devrait. Mais on avance tout doucement. Simplement, après, moi, je soulève un peu les incohérences. C'est vrai qu'Elisabeth Borne était allée voir les petites filles. Et puis après, on a Damien Abad accusé de viol qui n'est pas... toute la sortie du gouvernement.
Va se décompter dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci d'avoir participé à ce débat du jour. Émilie Zapalski, fondatrice de l'agence Émilie Conseil, Dorian Droy qui était en ligne avec nous, co-président de l'ONG à voter, et Emmanuel Rivière, directeur international pour les études politiques de l'Institut Kantar Public.